Anatole France, mémoire d'un volontaire. Toutes les circonstances de ces mémoires sont véritables et empruntées à divers écrits du XVIIIe. On n'y trouve pas un détail, si petit qu'il soit, qu'on ne rapporte d'après un témoignage authentique à Pollaren. Je suis né en 1770 dans le faubourg rustique d'une petite ville du pays de Langres, où mon père, à demi citadin, à demi paysan, vendait des couteaux et soignait son verger. Là, des religieuses qui élevaient des filles m'apprirent à lire parce que j'étais petit et qu'elles étaient bonnes amies de ma mère. Entre leurs mains, je reçus des leçons de latin d'un prêtre de la ville, fils d'un cordonnier et excellent homme. L'été, nous travaillions sous de vieux châtaigniers et c'est près de ces ruches que l'abbé Landonné lit les Géorgiques de Virgile. Oh, je n'imaginais pas de bonheur plus grand que le mien, et je vivais content de mon maître et Mademoiselle Rose, la fille du maréchal. Mais il n'est point au monde de félicité durable. Un matin, ma mère, en m'embrassant, coula un écu de 6 livres dans la poche de ma veste. Mes paquets étaient faits. Mon père sauta à cheval et, m'ayant pris en croupe, me mena au collège à Langres. Je songeais tout le long du chemin à ma petite chambre que parfumait vers l'automne l'odeur des fruits conservés dans le grenier, à l'enclos où le dimanche mon père me menait cueillir les pommes des arbres greffées de sa main, à Rose, à mes sœurs, à ma mère, à moi-même, pauvre exilé. Je me sentais le cœur gros et je retenais à grand-peine les larmes qui gonflaient mes paupières. Enfin, après 5 heures de voyage, nous arrivâmes à la ville et nous mîmes pied à terre devant une grande porte sur laquelle je lis ce mot qui me fit frissonner « Collegium ». Nous fûmes reçus dans une grande salle blanche à chaud par le régent, le père Féval, de l'oratoire. C'était un homme, jeune encore, de belle taille, dont le sourire me rassura. Mon père montrait en toute rencontre une rondeur, une vivacité, une franchise qui ne se démentait jamais. « Mon révérend, dit-il en me désignant de la main, je vous amène mon fils unique, Pierre, du nom de son parrain, et au biais du nom que je lui ai donné, sans tâche, tel que je l'avais reçu de mon fait mon père. Pierre est mon unique garçon, sa mère, Madeleine Ordoulet, m'ayant donné un fils et 3 filles que j'élève de mon mieux. Mes filles auront le sort qu'il conviendra à Dieu, premièrement, et ensuite à leur mari de leur faire. On les dit jolies, et je ne puis me défendre de le croire. Mais la beauté n'est qu'un bien trompeur dont il ne faut pas se soucier. Elles seront assez belles si elles sont assez bonnes. Quant à mon fils Pierre, ici présent, et en prononçant ces paroles, mon père posa sa main si lourdement sur mon épaule qu'il me fit fléchir, moyennant qu'il craigne Dieu et sache le latin, il sera prêtre. Je vous prie donc très humblement, mon révérend, de l'examiner à loisir afin de discerner son véritable naturel. Si vous découvrez en lui quelque mérite, gardez-le. Oh, je paierai volontiers ce qu'il faudra. Et si au contraire vous estimez ne pouvoir rien faire de lui, mandez-le-moi, je viendrai le reprendre aussitôt, et je lui apprendrai à fabriquer des couteaux comme son père, car je suis coutelier pour vous servir, mon révérend. » Le père Fréval promit qu'il ferait ce qu'on demandait. Et sur cette assurance, mon père prit congé du régent et de moi. Comme il était très ému et qu'il avait peine à retenir ses sanglots, il prit un visage rude et contracté et me donna en guise d'embrassement une terrible bourrade. Quand il fut parti, le père Féval m'entraîna hors du couloir dans un jardin que bordait une épaisse charmille, Puis, en passant sous l'ombre des arbres, il me dit: Ô Sylvae dulces umbras fronsae. Oh, je fus assez heureux pour reconnaître dans ces formes archaïques et dans cette lourde prosodie du vers du vieil Ennius, et je répondis à propos au père Féval que Virgile était plus digne encore que son antique précurseur de célébrer la beauté de ses frais ombrages, frigus opacum. Mon régent parut assez satisfait de ce compliment. Il m'interrogea avec bonté sur quelques points du rudiment, puis ayant entendu mes réponses, Bon, c'est bien, me dit-il. Avec du travail, beaucoup de travail, vous pourrez suivre la classe de quatrième. Allez, venez, je vais vous présenter moi-même à votre professeur et à vos condisciples. Pendant le temps qu'avait duré notre promenade, je me sentais recueilli dans mon abandon et soutenu dans ma détresse. Mais quand je me vis au milieu des collégiens de ma classe, en présence de Monsieur Jour sans vous, mon professeur, je retombais dans un profond désespoir. Monsieur Jour sans vous n'avait ni l'abord facile, ni la belle simplicité du régent. Il me sembla beaucoup plus pénétré de son importance et aussi plus dur et plus fermé. C'était un petit homme à grosse tête dont les paroles passaient en sifflant entre deux lèvres blanches et quatre dents jaunes. Je songeais tout de suite qu'une pareille bouche n'était pas faite pour prononcer ce nom de Lavinie, que j'aimais encore plus que celui de Rose. Car, il faut que je confesse, l'idyllique et royale fiancée du malheureux Turnus était parée dans mon imagination de grâces augustes. Son image idéale me cachait la beauté plus vulgaire de la fille du maréchal. Monsieur Jouhanceau, tel était le nom de mon professeur de quatrième, ne me plaisait guère. Mes condisciples me faisaient peur. Ils m'avaient l'air terriblement hardi et je craignais avec raison que ma naïveté leur parût ridicule. J'avais grande envie de pleurer. Le respect humain, plus fort que ma douleur, retint seul mes larmes. Le soir étant venu, je sortis du collège et m'en allai chercher dans la ville le gîte que m'avait retenu mon père. Je logeais avec cinq autres écoliers chez un artisan dont la femme nous faisait la cuisine. Nous lui donnions chacun 25 sous chaque mois. Mes condisciples essayèrent d'abord de me railler sur mes habits mal faits et mon air rustique. Mais ils cessèrent leurs plaisanteries quand ils virent qu'elles ne me fâchaient pas. Un seul d'entre eux, le fils étique d'un procureur, ayant continué d'imiter insolemment mon maintien lourd et gauche, je le châtiai d'une main si pesante qu'il ne fut plus tenté d'y revenir. Bon, je ne plaisais guère à Monsieur Jouvenceau, mais accomplissant mes devoirs avec régularité, je ne lui fournissais pas l'occasion de me punir. Comme il faisait étalage d'une autorité violente, incertaine et tracassière, il invitait à la révolte, et il y eut en effet dans la classe plusieurs mutineries auxquelles je ne pris point de part. Un jour, me promenant dans le jardin avec le régent, qui me témoignait beaucoup de bonté, il me vint malheureusement en tête de me vanter de ma sagesse. Mon père, lui dis-je, oh, je n'étais pas de la dernière révolte. Oh, il n'y a pas de quoi vous en vanter, me répondit le père Féval avec un accent de mépris qui me déchira le cœur. Il haïssait la bassesse plus que tout au monde. Je me promis bien, en l'entendant, de ne jamais plus rien dire qu'il ferle vil, et si depuis j'ai su me garder du mensonge et de la lâcheté, c'est à cet excellent homme que je le dois. Monsieur Féval n'était pas un prêtre philosophe, Il professait les vertus et non la foi du vicaire savoyard. Il croyait tout ce qu'un prêtre doit croire. Mais il avait horreur des momeries et il ne pouvait tolérer qu'on intéressât Dieu à des bagatelles. Il y parut bien en ce jour de Noël où M. Jursanvaux vint lui dénoncer les impies qui la veine avait mis de langue dans les bénitiers. Le scandalisé jouvenceau mâchait des exorcismes et murmurait « Cerce très noir !»« À cause de l'encre, répondit paisiblement notre régent. » Cet homme vertueux considérait la faiblesse comme le principe unique de tous les maux. Il disait souvent « Lucifer et les anges rebelles ont failli par orgueil. C'est pourquoi ils restent jusque dans l'enfer, princes et rois, et exercent sur les damnés une terrible souveraineté. S'ils avaient péri lâchement, ils seraient au milieu des flammes, la risée et le jouet des âmes des pécheurs. » Et l'hégémonie du mal aurait même échappé à leurs mains divines, avides. Quand vinrent les vacances, j'eus grande joie à revoir notre maison. Mais je la trouvais bien petite. Quand j'entrais, ma mère, courbée sur le foyer, écumait le pot-au-feu. Je la trouvais toute petite aussi, ma bonne mère. Elle embrassait en sanglotant. L'écumoire à la main, elle me conta que mon père, alourdi par l'âge et les douleurs, ne soignait plus le verger, que l'aînée de mes sœurs était promise en mariage au fils du tonnelier, et que le sacristain de la paroisse avait été trouvé mort dans sa chambre, une bouteille à la main. Les doigts crispés serraient si fort le goulot qu'on crut qu'on ne les détacherait pas. Pourtant, il n'était pas décent qu'on portât le sacristain à l'église avec sa bouteille de vin gris. En écoutant ma mère, j'eus pour la première fois l'idée sensible de la fuite du temps et de l'écoulement des choses. Je tombais dans une sorte de torpeur. « Que tu es bon, que tu as bon air, mon fils, » disait ma mère. « Va !» Dans ta veste de bassin, tu sembles déjà un petit curé, tout cru, scraché. » À ce moment, Mademoiselle Rose entra dans la salle. Elle rougit en me voyant et feignit une grande surprise. Je vis que je lui inspirais de l'intérêt et j'en fus secrètement flatté. Mais j'affectai devant elle le maintien grave et réservé d'un ecclésiastique. Je passais la plus grande partie des vacances à me promener avec M. Lamadou. Il avait été convenu entre nous que nous ne parlerions que latin. Et nous allions par les routes, au milieu des humbles travaux des champs, dans l'ardente nature, côte à côte, droit devant nous, grave, sérieux, puis dédaigneux des plaisirs vulgaires et très vains de notre science. Je retournai au collège avec la ferme résolution d'entrer dans les ordres. Je me voyais déjà, comme M. Lamadou, coiffé d'un grand chapeau à trois cornes, portant la soutane avec une culotte noire, des bas de laine et des souliers à boucles, méditant tour à tour l'éloquence de Cicéron et la doctrine de saint Augustin, et traversant la foule en rendant gravement des saluts aux dames et aux pauvres inclinés devant moi. Hélas, un fantôme de femme vint troubler ce beau rêve. Jusque-là, je ne connaissais que Lavinie et Mademoiselle Rose. Je connus Didon et je sentis courir des flammes dans mes veines. L'image de celle qui, déchirée d'une blessure immortelle, errait dans la forêt des Myrtes, se penchait la nuit sur mon lit agité. Moi aussi, dans mes promenades du soir, je croyais la voir glisser toute blanche derrière les arbustes de bois, comme la lune au milieu des nuées. Plein de cette brillante image, je redoutais d'entrer dans les ordres. Pourtant, Je pris l'habit ecclésiastique qui m'allait à ravir. Quand je retournais chez moi ainsi vêtu, ma mère me fit la révérence, et Rose, cachant ses rosiers yeux dans son tablier, se mit à pleurer. Puis, me regardant de ses beaux yeux aussi limpides que ses larmes, « Monsieur Pierre, me dit-elle, je ne sais pas pourquoi je pleure. » Elle était touchante aussi, mais elle ne ressemblait pas à la lune dans les nuées. Je ne l'aimais pas, c'est Didon que j'aimais. Cette année-là fut marquée pour moi par un grand deuil. Je perdis mon père qui succomba assez subitement à une hydropisie de poitrine. À ces derniers moments, il recommanda à ses enfants de vivre dans l'honnêteté, dans la religion, et il les bénit. Il mourut avec une douceur qui n'était point dans son caractère. Il semblait quitter sans regret, même avec allégresse, cette vie à laquelle il était fortement attaché par tous les liens d'une ardente nature. J'ai appris de lui qu'il est plus facile qu'on ne pense de mourir quand on est homme de bien. Je résolus d'être à mon tour le père de ses sœurs aînées, déjà bonnes à marier, et de cette mère en larmes qui d'année en année se faisait plus petite, plus faible, plus touchante. C'est ainsi qu'en un moment, d'enfant, je devins homme. J'achevais mes études chez les oratoriens, sous les maîtres excellents, le père Lance, Portiquet et Marion, qui, perdus dans une province reculée et sauvage, consacraient à l'éducation de quelques pauvres enfants des facultés brillantes et une érudition profonde qui eussent honoré l'Académie des inscriptions. Le régent les dépassait tous par l'élévation de son esprit et la beauté de son âme. Tandis que j'achevais ma philosophie sous ces maîtres éminents, une grande rumeur parvenait jusque dans notre province et traversait les murs épais du collège. On parlait d'assembler les États, on demandait des réformes, et l'on attendait de grands changements. Des livres nouveaux que nos maîtres nous laissaient lire annonçaient le retour prochain de l'âge d'or. Quand vint le moment de quitter le collège, j'embrassai le père Féval en pleurant. Il me retint dans ses bras avec une profonde sensibilité. Puis il m'entraîna sous cette charmille où, 6 ans auparavant, j'avais eu avec lui mon premier entretien. Là, me prenant la main par la main, il se pencha sur moi, me regarda dans les yeux et me dit « Souvenez-vous, mon enfant, que sans le caractère, l'esprit n'est rien. Vous vivrez assez longtemps, peut-être, pour voir naître dans ce pays un ordre nouveau. Ces grands changements ne s'accompliront pas sans trouble. Qu'ils vous souviennent alors de ce que je vous dis aujourd'hui. Dans les conjonctures difficiles, l'esprit est une faible ressource. Seule la vertu sauve ce qui doit être sauvé. » Pendant qu'il parlait ainsi, au sortir de la charmille, le soleil, déjà bas à l'horizon, l'enveloppait d'une pourpre ardente et revêtait de lumière son beau visage pensif. J'eus le bonheur de retenir ces paroles qui me frappaient, bien que je ne les comprisse pas exactement. Je n'étais alors qu'un écolier et les plus simples. Depuis, la vérité de ces maximes m'a été révélée dans toute sa profondeur par la leçon terrible des événements. J'avais renoncé à l'état ecclésiastique. Il fallait vivre. Je n'avais point appris le latin pour fabriquer les couteaux dans le faubourg d'une petite ville. Je faisais de grands rêves. Notre métairie, nos vaches, notre jardin ne suffisait pas à mon ambition. Je trouvais à Mademoiselle Rose un air rustique. Ma mère s'imaginait que mon mérite ne pouvait se développer tout entier que dans une ville comme Paris. J'en arrivais sans peine à penser de même. Alors je me fis faire un habit par le meilleur tailleur de Langres. Cet habit avec une épée à poignée d'acier qui en soulevait les basques me donna si bon air que je ne doutais plus de ma fortune. Le père Féval me fit une lettre pour le duc de Puybonne et le 12 juillet de l'an de grâce 1789, je montais dans le coche en pleurant, chargé de livres latins, de galettes, de lard et de baisers. J'entrai dans Paris par le faubourg Saint-Antoine, que je trouvais plus hideux que les plus misérables hameaux de ma province, et je plaignais de tout mon cœur, et les malheureux qui habitaient là, et moi, qui avais quitté la maison et le verger de mon père pour chercher fortune au milieu de tant d'infortunés. Un négociant en vin qui avait pris le coche avec moi m'expliqua pourtant que tout ce peuple était dans l'allégresse parce qu'on avait détruit une vieille prison nommée la Bastille Saint-Antoine. Il m'assura que M. Necker ramènerait bientôt l'âge d'or. Mais un perruquier qui avait entendu notre conversation affirma à son tour que M. Necker perdrait la nation si le roi ne le renvoyait pas tout de suite. La révolution, ajouta-t-il, est un grand mal. On ne se coiffe plus. Et le peuple qui ne fait pas de coiffure est au-dessous des bêtes. Ces paroles fâchèrent le marchand de vin. Apprenez, monsieur le Merlan, répondit-il, qu'un peuple régénéré dédaigne les vaines parures. Je vous corrigerai de votre importance si j'en avais le temps, mais je vais vendre du vin à M. Bailly, maire de Paris, qui m'honore de son amitié. Ils quittèrent ainsi, et moi, j'allais à pied avec mes livres latins, mon lard et le souvenir des baisers de ma mère, chez M. le duc de Puybonne, à qui j'étais recommandé. Son hôtel est situé à l'extrémité de la ville, dans la rue de Grenelle. Les passants me l'indiquèrent à l'envi, car le duc est célèbre pour sa bienfaisance. Il me reçut avec bonté. Rien dans ses habits ni dans ses façons ne sort de la simplicité. Il a cet air joyeux qu'on ne voit qu'aux hommes qui travaillent beaucoup sans y être forcés. Il lut la lettre du père Féval et me dit « Oh, cette recommandation est bonne, mais que savez-vous ?» Je lui répondis que je savais le latin, un peu de grec, l'histoire ancienne, la rhétorique et la poétique. « Voilà de belles connaissances !» me répondit-il en souriant, « mais il serait préférable que vous eussiez quelque idée de l'agriculture, des arts mécaniques, du commerce, de la banque et de l'industrie. Vous connaissez les lois de Solon, je gage. » Je fais signe que oui. « C'est fort bien, mais vous ignorez la constitution de l'Angleterre. »« Il importe, vous êtes jeune et dans l'âge d'apprendre. »« Je vous attache à ma personne avec 500 écus d'appointement. »« Monsieur Mill, mon secrétaire, vous dira ce que j'attends de vous. »« Au revoir, monsieur. » Un laquais me conduisit à Monsieur Mill, qui écrivait devant une table au milieu d'un grand salon blanc. Il me fit signe d'attendre. C'était un petit homme rond, de figure assez douce, mais qui roulait des yeux terribles et grondait à mi-voix en écrivant. J'entendais sortir de sa bouche les mots de tyran, fer, enfer, homme, Rome, esclavage, liberté. Je le crus fou, mais ayant posé sa plume, il me salua de la tête en souriant. « Hein, me dit-il, ah, vous regardez l'appartement. Il est simple comme la maison d'un vieux Romain. Plus de dorures sur les lambris, plus de magots sur les cheminées, rien qui rappelle les temps détestés du feu roi, rien qui soit indigne de la gravité d'un homme libre. Libre !» Tibre, oh, il faut que je note cette rime. Elle est bonne, n'est-il point vrai? Aimez-vous les vers, monsieur Pierre Aubier? Je répondis que je ne les aimais que trop et qu'il eût mieux valu, pour faire ma cour à monseigneur, que je préférasse monsieur Burke à Virgile. Virgile est un grand homme, repartit monsieur Mille. Mais que pensez-vous de monsieur Chénier? Oh, pour moi, je ne connais rien de plus beau que son Charles IX. Oh, je ne vous cacherai pas que j'émaissais moi-même dans la tragédie. Et au moment où vous êtes entré, j'achevais une scène dont je suis assez content. Vous me semblez un fort honnête homme. Je veux bien vous confier le sujet de ma tragédie, mais n'en dites rien. Vous sentez de quelles conséquences serait la moindre indiscrétion. Je compose une Lucrèce. Soulevant alors un cahier dans ses mains, il lut. Lucrèce, tragédie en cinq actes dédiée à Louis le Bien-Aimé, restaurateur de la liberté en France. Il m'en déclama 200 vers, puis il s'arrêta, donnant pour excuse que le reste demeurait encore imparfait. Le courrier du duc, dit-il en soupirant, m'enlève les plus belles heures du jour. Nous sommes en correspondance avec tous les hommes éclairés de l'Angleterre, de la Suisse et de l'Amérique. Je vous dirai à ce propos, monsieur Aubier, que vous serez employé à la copie et au classement des lettres. Si vous êtes agréable de savoir tout de suite de quelles affaires nous nous occupons présentement, je vais vous le dire. Nous aménageons à Puybonne une ferme avec des colons anglais chargés d'introduire en France les améliorations agricoles réalisées dans la Grande-Bretagne. Nous faisons venir d'Espagne quelques-unes de ces brebis à joyeuse toison dont les troupeaux ont enrichi Ségovie de leur laine. Négociation aussi ardue qu'il a fallu unir à nos efforts ceux du roi lui-même. Enfin, nous achetons des vaches suisses pour les donner à nos vassaux. Mais ne parle point de la correspondance sur les affaires publiques. Celle-là est tenue secrète. Mais vous n'ignorez point que les efforts du duc de Puybonne tendant à faire appliquer en France la Constitution d'Angleterre. Alors permettez-moi de vous quitter, monsieur Aubier, je vais à la comédie, on joue à Lizzie. Cette nuit-là, je dormis dans les draps fins, et je ne dormis pas bien. Je rêvais que les abeilles de ma mère volaient sur les ruines de la Bastille, autour du duc de Puybonne qui souriait avec bonté dans une lumière élyséenne. Le lendemain, j'allais rejoindre de grand matin monsieur Mille, à qui je demandai s'il était bien diverti à la comédie. Il me répondit qu'il se flattait d'avoir surpris, pendant la répression d'Alzire, quelques-uns des secrets par lesquels monsieur de Voltaire excitait la sensibilité des spectateurs. Puis il me fit copier des lettres relatives à l'achat de ces vaches suisses dont le bon seigneur faisait présent à ses vassaux. Tandis que je m'appliquais à cette tâche, le duc est sensible, me dit-il. J'ai célébré la bienveillance dans des vers dont je ne suis pas trop mécontent. Connaissez-vous la terre de Puybonne? Non, mais c'est un séjour enchanteur. Mes vers vous en feront connaître les beautés. Je vais vous les dire. Ballon délicieux, asile du repos, bocage toujours vert où l'onde la plus pure roule paisiblement ses flots, et vient mêler en doux murmure au tendre concert des oiseaux. Que mon cœur est ému de vos beautés champêtres, que j'aime à confier sous ces riants berceaux le doux nom d'une nymphe à l'écorce des hêtres. De ses beaux yeux Puybonne est possesseur. Avec lui la bonté et la douce bienveillance dans ce palais habitent en silence. Le sentiment y retient le bonheur. Puybonne enseigne aux folâtres bergers à s'assembler sous les ormeaux. Il se mêle parfois à leur danse légère, puis il leur donne des troupeaux. Oh, j'étais émerveillé, je n'avais rien entendu à Londres d'aussi galant, et je reconnais qu'il y avait dans l'air de Paris un je ne sais quoi qui ne se trouve point ailleurs. L'après-dîner, j'allais visiter les principaux monuments de la ville. Le génie des arts a répandu depuis 2 siècles ses trésors sur les rives illustres de la Seine. Je ne connaissais encore que des châteaux et des églises gothiques, dont la mélancolie empreinte de rudesse inspire seulement à l'âme des pensées disgracieuses. Paris, il est vrai, possède encore quelques-uns de ces édifices barbares. La cathédrale même, qui s'élève dans la cité, témoigne par l'irrégularité et la confusion de sa structure de l'ignorance des âges où elle fut construite. Les Parisiens pardonnent à sa laideur en raison de son antiquité. Le père Féval avait coutume de dire que toutes les antiquités sont vénérables. Mais quel spectacle différent offrent les monuments des siècles polis! La régularité du plan, l'exacte proportion des parties, la large ordonnance de l'ensemble, enfin la beauté des ordres imités de l'antique, voilà les qualités qui brillent dans les ouvrages des modernes architectes. Elles se réunissent toutes pour faire de la colonnade du Louvre un chef-d'œuvre digne de la France et de ses rois. Quelle ville que Paris! Oh, Monsieur Mille m'a montré le théâtre où les plus belles actrices du monde prêtent leur voix et leur charme aux inspirations de Mozart et de Gluck. Bien plus, il m'a mené dans le jardin du Luxembourg, où j'ai vu, sous d'antiques ombrages, Rênal se promenant avec Dussault. Ô mon vénéré régent, ô mon maître, ô mon père, ô Monsieur Féval, que n'êtes-vous témoin de la joie et de l'émotion de votre élève, de votre fils? Je menais pendant 6 semaines la vie la plus douce. On annonçait autour de moi le retour de l'âge d'or, et je voyais déjà s'avancer le char de Saturne et de Rhé. Le matin, je copiais des lettres sous la direction de Monsieur Mille. C'est un bon compagnon que Monsieur Mille, toujours souriant, toujours fleuri et léger comme un zéphyr. Après dîner, je lisais quelques pages de l'encyclopédie à notre bon Seigneur, et j'étais libre jusqu'au lendemain matin. Un soir, j'allais souper au Porcheron avec Monsieur Mille. Des femmes, portant à leur bonnet les couleurs de la nation, se tenaient à la porte des guinguettes avec les fleurs dans un panier. L'une d'elles, s'étant approchée de moi, me prit par le bras et me dit: Mon cher monsieur, voici un bouquet de roses que je vous donne. Je rougis et ne sus que répondre. Mais Monsieur Mille, qui avait le ton de la ville, me dit: Oh, il faut payer ces roses d'une pièce de 6 sous et dire une parole d'honnêteté à la jolie demoiselle. Je fis l'un et l'autre, puis je demandai à Monsieur Mille s'il pensait que cette bouquetière fût une personne de bien. Oh, il me répondit qu'il s'en fallait de tout, même qu'on devait être poli avec toutes les femmes. Je m'attachais tous les jours davantage à l'excellent duc de Puybonne. C'était le meilleur et le plus simple des hommes. Il croyait n'avoir rien donné au malheureux quand il ne s'était pas donné lui-même. Il vivait comme un homme du commun, tenant le luxe de riche pour un vol fait aux pauvres. Sa bienfaisance était ingénieuse. Je l'entendis nous dire un jour: Oh, il n'est pas de plaisir plus doux que de travailler au bonheur des inconnus, soit en plantant quelque arbre utile, soit en greffant sur de jeunes bourgeons, dans les bois, des branches, dont les fruits puissent apaiser un peu la soif du voyageur égaré. Le bon Seigneur ne s'occupait pas que de philanthropie. Il travaillait ardemment la nouvelle constitution du royaume. Député de la noblesse à l'Assemblée nationale, il siégeait dans les rangs de ces amateurs de la liberté anglaise qu'on nommait monarchique, aux côtés de Malouet, de Stanislas, de Clermont-Tonnerre. Et bien que, dès lors, ce parti semblât condamné, il voyait s'acheminer avec toute la ferveur de l'espérance la plus humaine des révolutions. Nous partagions sa joie. Malgré bien des causes d'inquiétude, cet enthousiasme ne soutint encore l'année suivante. J'accompagnais M. Mill au Champ de Mars dans les premiers jours de juillet. Les 200 000 personnes de toutes conditions, hommes, femmes, enfants, élevaient de leurs mains l'autel où ils devaient jurer de vivre ou de mourir libres. Des perruquiers en veste bleue, des porteurs d'eau, des abbés, des charbonniers, des capucins, des filles de l'opéra en robes à fleurs, coiffées de rubans et de plumes, piochaient ensemble la terre sacrée. Quel exemple de fraternité! Nous vîmes M. Seyès et de Beauharnais attelés à la même charrette. Nous vîmes le père Gérard qui, comme un ancien Romain, passe du Sénat à la charrue, maniait la pelle et remuait la terre. Nous vîmes toute une famille travaillant au même endroit. Le père piochait, la mère chargeait la brouette et leurs enfants la roulaient tour à tour, tandis que le plus jeune, âgé de 4 ans, sur les genoux de son aïeul, qui en avait 93, bégayait. « Ah, ça ira, ça ira, ça ira !» Nous vîmes défiler encore les garçons jardiniers portant des laitues et des marguerites au bout de leurs mèches. Plusieurs corporations les suivaient, musique en tête. Les imprimeurs, dont la bannière portait cette inscription, « Imprimerie, premier drapeau de la liberté !» Puis les bouchers. Sur leur étendard était peint un large couteau avec ces mots. « Tremblez, aristocrates! Voici les garçons bouchers !» Et cela même nous semblait encore de la fraternité. « Oubliez, mon ami, mon frère !» s'écria M. Mill. « Mais je me sens ravi par l'enthousiasme poétique. Oh, je vais composer une ode qui vous sera dédiée. Écoutez. Ami, vois-tu ce peuple immense, comme il accourt de toutes parts, des artisans chers à la France, vois-tu flotter les étendards? C'est l'autel de la patrie, que l'amour dirige leurs pas, tous vont à leur mère chérie, se dévouer jusqu'au trépas. Monsieur Mill récitait ses vers avec chaleur. Il était petit, mais il faisait de grands gestes. Il portait un habit amarante. Toutes ces circonstances le faisaient remarquer. Quand il eut achevé cette strophe, un cercle de curieux l'entourait. On l'applaudissait. Il continua, transporté. « Ouvre les yeux !» Fixe ton âme sur ce spectacle solennel. » Mais à peine avait-il prononcé ces mots qu'une dame, coiffée d'un vaste chapeau noir à plumes, se jeta dans ses bras et le pressa contre le fichu qui lui couvrait la gorge. « Oh, que cela est beau !» s'écria-t-elle. « Monsieur Mill, souffrez que je vous embrasse !» Un capucin, qui, son manteau sur le manche de sa bêche, se tenait dans le cercle des curieux, battit des mains à la vue d'un si grand embrassement. Alors de jeunes patriotes qui l'entouraient le poussèrent en riant vers l'embrassante dame, qui l'embrassa au milieu des acclamations. Monsieur Mill l'embrassa et j'embrassai Monsieur Mill. « Oh, les beaux vers !» s'écriait encore la dame au grand chapeau. « Bravo, Mille, mais c'est du Jean-Baptiste !»« Oh !» fit M. Mille avec modestie, la tête sur l'épaule, et la joue ronde et rouge comme une pomme. Oui, du pur Jean-Baptiste, répétait la dame. Il faut chanter ça sur l'air du serin qui se fait envie. Vous êtes trop honnête, lui répondit Monsieur Mille. Permettez-moi, Madame Berdrelet, de vous présenter mon ami Pierre Aubier, qui vient du Limousin. Oh, il a du mérite et se fera l'air de Paris. Ce cher enfant, répondit Madame Berthemer en me pressant la main, mais qu'il vienne chez nous, amenez-le-nous, Monsieur Mille. Nous faisons de la musique tous les jeudis. Aime-t-il la musique? Mais la belle question! Pour ne pas l'aimer, il faudrait être un barbare en proie à toutes les fureurs. Venez jeudi prochain, Monsieur Aubier. Ma fille Amélie vous chantera une romance. En parlant ainsi, Madame Berthelet désigna une jeune demoiselle coiffée à la grecque et vêtue de blanc, dont les cheveux blonds et les yeux bleus me parurent les plus beaux du monde. Je rougis en la saluant, mais elle ne parut point s'apercevoir de mon trouble. En rentrant à l'hôtel de Puybonne, je ne dissimulai pas, Monsieur Mille, l'impression que me fit la beauté d'une si aimable personne. Oh, il faut donc, me répondit Monsieur Mille, ajouter une strophe à mon ode. Et après quelques secondes de réflexion, eh bien, voilà qui est fait, ajouta-t-il. Si d'une belle, honnête et sage, tu sais un jour te faire aimer, le nœud sacré du mariage est le seul que je dois former. Mais à l'autel de la patrie, courez tous deux pour vous unir, que jamais votre foi trahie n'ordonne au ciel de vous punir. Hélas, monsieur Mille n'avait pas ce don de lire dans l'avenir que l'Antiquité attribuait aux poètes. Nos jours heureux étaient désormais comptés, nos belles illusions devaient tomber toutes. Au lendemain de la Fédération, la nation se réveilla cruellement divisée. Le roi, faible et borné, répondait mal aux espérances infinies que le peuple avait mises en lui. L'émigration criminelle des princes et des nobles appauvrissait le pays, irritait le peuple et menait à la guerre. Les clubs dominaient l'assemblée. Les haines populaires devenaient de plus en plus menaçantes. Si la nation était en proie aux troubles, la paix ne régnait pas dans mon cœur. Oui, j'avais revu Amélie. J'étais devenu l'hôte assidu de sa famille, et il n'y avait pas de semaine que je n'allasse deux ou trois fois dans la maison qu'ils habitaient, dans la rue Neuve-Saint-Eustache. Leur fortune, autrefois brillante, avait beaucoup souffert de la Révolution, et je puis dire que le malheur mûrit notre amitié. Amélie, devenue pauvre, m'en parut plus touchante, et je l'aimais. Je l'aimais sans espoir. Qu'étais-je, pauvre petit paysan, pour plaire à une si gracieuse citadine? J'admirais ses talents. C'est en faisant de la musique, de la peinture ou en traduisant quelques romans anglais qu'elle se divertissait noblement des malheurs publics et de ceux de sa famille. Elle montrait en toute rencontre une fierté qui se tournait volontiers à mon égard en raillerie badine. Il était visible que, sans toucher son cœur, j'amusais son esprit. Son père était le plus beau grenadier de la section, homme nul au demeurant. Quant à Madame Berthemer, c'était, malgré sa pétulance, la meilleure des femmes. Elle débordait d'enthousiasme. Les perroquets, les économistes et les vers de Monsieur Mille la faisaient tomber en pâmoison. Elle m'aimait quand elle en avait le temps, car les gazettes de l'opéra lui en prenaient beaucoup. Elle était, près de sa fille, la personne du monde que j'avais le plus de plaisir à voir. J'avais fait de grands progrès dans la confiance de Monsieur de Puybonne. Il ne m'occupait plus à copier des lettres, il m'employait aux négociations les plus délicates, et il me faisait souvent des confidences dans lesquelles M. Mill n'avait point de part. D'ailleurs, il avait perdu la foi, sinon le courage. La fuite humiliante de Louis XVI l'affligea plus que je ne le saurais dire. Mais après le retour de Varennes, il se montra assidu auprès du souverain prisonnier qui avait méprisé ses conseils et suspecté ses sentiments. Mon cher seigneur resta désespérément fidèle à la royauté mourante. Le 10 août, il était au château, et c'est par une sorte de miracle qu'il échappa au peuple et qu'il put regagner son hôtel. Dans la nuit, il me fit appeler. Je le trouvai revêtu des habits d'un de ses intendants. Adieu, me dit-il. Je fus une terre dévouée à tous les genres de désolation et de crime. Après-demain, j'aurai touché les côtes de l'Angleterre. J'emporte 300 louis. Oh, c'est tout ce que j'ai pu réaliser de ma fortune. Je laisse ici des biens considérables. Allez, je n'ai que vous à qui me fier. Mille est un sot. Prenez mes intérêts. Je sais qu'il y aura du danger à le faire, mais je vous estime assez pour vous confier des soins périlleux. Je lui pris les mains, les baisai, les mouillai de larmes. Ce fut ma seule réponse. Tandis qu'il s'échappait de Paris à la faveur de son déguisement et d'un faux passeport dont il s'était muni, je brûlais dans les cheminées de l'hôtel des papiers qui eussent pu compromettre des familles entières et coûter la vie à des centaines de personnes. Dans les jours qui suivirent, je fus assez heureux pour vendre à très bas prix, il est vrai, les voitures, les chevaux et la vaisselle de Monsieur de Puybonne. Et je sauvai de la sorte les 70 à 80 000 livres qui passèrent le détroit. Oh, ce ne se vit pas sans courir les plus grands dangers que je conduisis ces négociations délicates. Il y allait de ma vie. La terreur régnait sur la capitale au lendemain du 10 août. Dans les rues, la veille encore animée par la bigarrure des costumes, où retentissaient les cris des marchands et les pas des chevaux, s'étendait maintenant la solitude et le silence. Toutes les boutiques étaient fermées. Les citoyens, cachés dans leurs logis, tremblaient pour leurs amis et pour eux-mêmes. Les barrières étaient gardées et nul ne pouvait sortir de la ville épouvantable. Des patrouilles d'hommes armés de piques parcouraient les rues. On ne parlait que de visites domiciliaires. J'entendais de ma chambre située dans les combles de l'hôtel le pas des citoyens armés, le bruit des piques et des crosses de fusil contre les portes voisines, les plaintes et les cris des habitants qu'on traînait en section. Et quand les sans-culottes avaient tout le jour terrorisé les âmes paisibles du quartier, ils se rendaient dans la boutique, dans l'épicier, mon voisin. Ils y buvaient, ils dansaient la carmagnole, chantaient le Ça ira jusqu'au matin, et il m'était impossible de fermer l'œil de la nuit. L'inquiétude rendait mon sommeil et mon insomnie plus cruelle. Je craignais que quelque valet ne m'eût dénoncé et qu'on ne vînt pour m'arrêter. Il y avait alors une fièvre de délation. Pas un marmiton qui ne se crût un Brutus pour avoir trahi les maîtres qui le nourrissaient. J'étais constamment sur mes gardes. Un serviteur fidèle devait m'avertir au premier coup de marteau. Je m'étais habillé sur mon lit ou dans un fauteuil. J'avais sur moi la clé de la petite porte du jardin. Mais pendant les exécrables journées de septembre, quand j'appris que des centaines de prisonniers avaient été massacrés au milieu de l'indifférence publique, sous le regard approbateur des magistrats, l'horreur l'emportant en moi sur le crainte Je rougis de prendre tant soin de ma sûreté et de défendre si prudemment une existence que devaient désoler les crimes de ma patrie. Je ne craignais plus de me montrer dans les rues ni de croiser les patrouilles. Pourtant, jamais la vie. Je l'aimais. Mais il y avait un charme puissant à mes angoisses et à mes douleurs. Une image délicieuse effaçait à mes yeux tout le sombre tableau qui se déroulait devant moi. J'aimais Amélie et son jeune visage multiplié dans mon imagination l'enchantait tout entière. Je l'aimais sans espoir. Pourtant, il me semblait que j'étais moins indigne d'elle depuis que je m'étais conduit en homme de cœur. Je me flattais que, du moins, mes périls me rendraient intéressante à ses yeux. C'est dans cette disposition que j'allais la voir un matin. Je la trouvai seule. Elle me parla avec plus de douceur que ne l'avait fait encore. Ses yeux se tournèrent vers le ciel et il leur coula une larme. Cette vue me jeta dans un trouble inexprimable. Je me jetai à ses pieds, je saisis sa main et la baignai de pleurs. « Oh, mon frère !» me dit-elle en s'efforçant de me relever. Je ne compris pas en ce moment la cruelle douleur, sœur, de ce nom de frère. Je lui parlais avec toute la sensibilité de mon âme. « Oui, m'écriai-je, ces temps sont affreux. Les hommes sont méchants, fuyons-les. Le bonheur est dans la solitude. Il est encore des îles lointaines où l'on peut vivre innocent et caché. Allons-y. Allons chercher le bonheur à l'ombre des lataniers sur le tombeau de Virginie. » Tandis que je parlais ainsi, elle regardait au loin et semblait rêveuse. Mais je ne devinais pas si elle faisait le même rêve que moi.